On continue notre petite étude dans le livre d'Éphésiens. On est encore au chapitre 1, mais on va terminer le chapitre 1 ce soir. On va voir les versets 21 et 22. Dans le contexte qu'on est rendu, c'est que l'apôtre Paul, il nous a dit au début que Dieu nous avait bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Puis le fait qu'on était bénis, il a expliqué certaines des bénédictions, puis là, il a dit que Dieu a démontré sa puissance, il nous a montré par sa puissance comment est-ce qu'il était capable de nous bénir. Il a prouvé qu'il était capable de nous bénir. Comment? Mais en ressuscitant Jésus. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, dans la dernière étude, au verset 20. Dieu voulait démontrer sa capacité d'accomplir ses promesses pour nous. Il nous a démontré sa puissance en ressuscitant le Messie. Puis il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Puis ça, c'est une bénédiction que Dieu il nous a révélée, ce qu'il a fait avec son Fils. Quand la Bible a dit que Jésus il était assis dans les lieux célestes en Jésus, ça on voit ça dans Éphésiens au chapitre 1, les versets 20 et 21, je vais vous relire ces passages-là, que le Christ, que Dieu a déployé en Christ sa puissance en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes en Jésus, c'est pas en Jésus, mais il est Jésus. Mais le fait que Jésus a été ressuscité, par là, Dieu a démontré comment est-ce qu'il est grand et puissant, puis qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Parce que c'était des promesses que Dieu nous avait faites, qui étaient pour ressusciter le Messie. Puis il l'a ressuscité, puis il l'a fait asseoir dans les lieux célestes. Quand on parle que Jésus s'est assis dans les lieux célestes à sa droite, c'est une expression, premièrement, c'est une expression au sens figuré, parce que ça veut pas dire nécessairement que Jésus est assis sur une chaise à droite de Dieu. C'est qu'il est assis, c'est une expression qui est empruntée aux usages des rois de la terre, qui indique la toute-puissance divine qui est donnée au Fils de Dieu après son triomphe. C'est comme si Jésus, il est assis dans la gloire de son Père, dans sa présence, puis il a obtenu tout ce que Dieu lui avait promis. C'est un peu tout ça que Jésus a eu quand on dit qu'il s'est assis à sa droite. Ça veut dire plus que juste être à sa droite. Ça veut dire la droite, quand on parle d'une droite, quand quelqu'un il dit... son bras, il a sa droite toute puissante, c'est son bras puissant, il est assis dans le pouvoir de Dieu, dans la toute puissance de Dieu. Puis ça a du sens quand on pense que Dieu veut bénir ses enfants, puis il nous a assis nous aussi dans les lieux célestes en Jésus. C'est toute une bénédiction de savoir que nous aussi, on est assis là, dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu. Puis, le fait que Jésus a dit dans Matthieu 28, le verset 18, Jésus s'est approché leur parlant ainsi, ça c'est après sa résurrection, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel puis sur la terre. » Fait que quand Jésus est allé s'asseoir à la droite de Dieu, est allé s'asseoir dans la toute-puissance de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que Jésus qui était comme en forme humaine, Dieu l'a ressuscité, puis il l'a fait asseoir dans la toute-puissance de Dieu. Hey, c'est quelque chose quand tu penses à ça. Puis là, c'était pour accomplir les promesses qui avaient été données à Jésus à propos du Messie. Puis ça nous dit dans Éphésiens chapitre 1, les versets 21, que Jésus est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus, il était assis par son Père dans la toute-puissance, mais il était assis au-dessus de tout être ou toute créature qui existe. Il n'y a pas une créature, ni dans le ciel, ni sur la terre, qui est plus grand ou équivalent de Jésus. Jésus a le nom au-dessus de tout. Non, qui peut se nommer, puis il est au-dessus, qu'est-ce qui est fort là-dedans, de toute domination, ça veut dire toute autorité, de toute puissance, parce qu'il y en a des puissances, puis des autorités, puis des dominations, des groupes d'anges puissants dans le ciel, puis des groupes de démons qui étaient là dans le ciel, puis qui ont été précipités sur la terre, puis des autorités, des puissances, puis on en parle, il en parle dans l'Éphésiens au chapitre 6, quand il parle des armes de la puissance de Dieu, quand Dieu nous a donné la puissance sur les dominations, les autorités, les pouvoirs. Mais Jésus a été élevé au-dessus de tout cela, c'est pour cela qu'il peut la donner à ses disciples. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fait que quand tu t'approches de Jésus, tu t'approches du Tout-Puissant. Tu t'approches de celui qui est le plus grand des personnages de toute l'histoire de la création, de toute la vie, que ce soit la vie dans le monde invisible ou la vie dans le monde visible. Jésus, dans un autre passage, dans Hébreux chapitre 8, le verset 1, ça dit qu'il était nommé le souverain sacrificateur du ciel, parce qu'il y a eu des souverains sacrificateurs sur la terre. Puis quand tu regardes le peuple d'Israël, les souverains sacrificateurs, c'était des personnes qui régnaient sur le peuple. C'était les chefs du peuple. Jésus lui était nommé souverain sacrificateur. Dans Hébreux 8:1, ça dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. On parle du Messie, qui est ressuscité, puis qui est assis dans le ciel, qui est le souverain sacrificateur. C'est le chef du ciel. Parce que comme c'est mentionné dans Actes 23, les versets 4 et 5, le souverain sacrificateur, c'est le chef du peuple. Dans Actes 23, 4 et 5, ça dit, ceux qui étaient dans le contexte avec l'apôtre Paul, qui est en train de se faire questionner par le souverain sacrificateur, puis là, il avait ordonné de le frapper. Puis là, Paul, il a dit, « Dieu va te frapper, muraille blanchie. » Puis ceux qui étaient là, près de Paul, ils lui disent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Puis là, Paul, il a dit, « Je savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, « Tu parleras pas en mal du chef de ton peuple. » Puis dans cette parole-là, ça nous désigne que les souverains sacrificateurs étaient les chefs du peuple. Puis Paul ne devait pas parler contre... ce personnage-là. Les souverains sacrificateurs étaient les chefs du peuple, dans le peuple juif, avant qu'il y ait les rois. Fait que là, on parle du souverain sacrificateur du ciel qui est assis à la droite de Dieu, c'est Jésus. On a dans le ciel le chef suprême du ciel, c'est Jésus, le Messie. Son élévation auprès de Dieu, quand que Jésus il est monté au ciel, puis qu'il est assis à la droite de Dieu, son élévation auprès de Dieu, ça va être pour toujours. Dans Hébreux chapitre 10, verset 12, ça dit, lui, en parlant de Jésus, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Ça veut dire... pour toujours, Jésus est allé s'asseoir à cette position d'autorité-là et de toute puissance et au-dessus de tout nom, c'est ça l'autorité, puis le nom suprême, le nom tout-puissant, ben il est assis là pour toujours, ça nous dit dans ce passage-là. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est un titre, un poste qui sera jamais remplacé. Les souverains sacrificateurs sur la terre étaient remplacés. Parce qu'il mourait, c'était transmis de père en fils, de génération en génération. Mais lui est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, ça nous dit dans un autre passage, c'est pour toujours qu'il est devenu le souverain sacrificateur du ciel. Jésus, tout ça pour vous dire comment est-ce que Dieu il est fidèle à sa parole. C'est toutes sortes de promesses dans l'Ancien Testament à propos de Jésus. Se sont toutes accomplies, puis il a été élevé comme que ça avait été annoncé. C'est pour ça que Dieu le Père, quand il nous promet des choses dans sa parole, il a la capacité de les accomplir. Il l'a accompli, il a manifesté sa puissance en amenant Jésus dans cette position-là, mais il va manifester sa puissance en nous amenant aussi dans les récompenses, les choses qu'il nous a promises. Sa position d'autorité, comme je vous disais tantôt, est placée au-dessus de tout, dans Éphésiens 1, le verset 20 et 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. On voit dans ce passage-là que son autorité est suprême, supérieure à tous, puis quand on dit à tous, c'est à toutes les créatures terrestres et céleste, parce qu'il dit au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent, ça c'est les choses terrestres, puis encore dans le siècle à venir, dans le monde invisible. Fait que Jésus a été élevé par Dieu son Père dans une position d'autorité suprême. C'est très bien spécifié que les autorités puis les puissances lui ont été soumises. Toutes les autorités et les puissances lui ont été soumises. Dans 1 Pierre 3, le verset 22. Jésus, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, il est à la droite de Dieu, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Tout le monde, les anges, les autorités, les puissances, ça représente les démons, sont soumis à l'autorité de Jésus-Christ. C'est l'autorité, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Fait que, au nom de Jésus, toutes les autorités se soumettent. Ça veut dire que quand nous, on utilise le nom de Jésus, on marche dans l'autorité que le Seigneur a reçue. C'est l'autorité suprême. Ce que Jésus a reçu dans les lieux célestes, ben nous, on est assis aussi dans les lieux célestes, dans cette autorité-là. Il nous a remis cette autorité-là. On a l'autorité de prier pour les gens, puis de guérir les gens, puis de chasser les démons. Dieu veut qu'on saisisse par la foi ces promesses-là. Ce qu'il a promis à Jésus, puis qu'il l'a accompli, ce qu'il nous promet à nous, va l'accomplir aussi, parce que Dieu est tout-puissant. Amen. N'oublions jamais que tout lui a été soumis, les anges comme les démons. Il n'y a pas un qui va résister à son autorité. Ils vont tous fléchir le genou quand son nom est invoqué. Quand on parle d'être soumis, là, le mot grec qu'il y a là, c'est disposer sous ou subordonner. Ça veut dire que tous les démons sont subordonnés, tous les anges, les créatures angéliques sont subordonnés, sont en dessous de Jésus. Ils se soumettent, ça veut dire se mettre en soumission, obéir. Ils vont tous obéir, ils peuvent pas ne pas obéir si un ordre vient de Jésus. Ils vont soumettre au contrôle de Jésus. Ils vont céder à un avertissement ou à un conseil de Jésus. Ils vont obéir, puis ils vont être soumis, puis ils vont être assujettis aux ordres que Jésus va prononcer. Puis ça, le mot qu'il y a là, quand il dit que les autorités, puis les anges, puis les puissances lui ont été soumis, c'est un terme militaire grec du sens de placer des divisions, des troupes, d'une manière militaire sous le commandement d'un chef. Dans un sens non militaire, c'est qu'il y a une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités ou de porter une charge. Fait que ça soit volontairement qu'ils se soumettent ou que ça soit obligatoirement qu'ils se soumettent, tous se soumettent, anges et démons et humains un jour. Aujourd'hui, on a la liberté de rester debout, puis de résister, puis pas vouloir se soumettre, puis il y en a des humains qui ont accepté de se soumettre. Mais Jésus a reçu l'autorité au-dessus de tous, puis un jour, même les humains rebelles vont se soumettre, puis vont confesser que Jésus est Seigneur, puis vont flécher le genou devant lui, parce que c'est lui qui a l'autorité suprême sur tout. Jésus est assis à la droite de Dieu, dans l'autorité de Dieu, dans le pouvoir de Dieu, depuis qu'il est au ciel, puis que les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. C'est fort. Toutes les créatures du ciel ont constaté comment Dieu est infiniment sage. Dans Éphésiens 3:10, ça nous dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Fait que les anges puis les démons continuent à apprendre comment Dieu est sage, comment est-ce qu'il opère un plan parfait en élevant son Fils puis en nous faisant asseoir en son Fils Jésus-Christ dans les lieux célestes, dans son nom, dans son autorité. C'est grandiose le plan que Dieu a manifesté pour qu'on puisse faire partie des héritiers puis qu'on puisse obtenir ces promesses-là. C'est à nous. On a reçu en Jésus cette autorité-là, ce pouvoir-là, puis on peut commander des choses ou dire amen à des choses, puis c'est dans les choses vont s'accomplir comme ça s'était annoncé, comme ça s'était promis. Jésus a tout mis, a tout sous ses pieds. Il est le chef suprême de l'Église aussi, dans Éphésiens 1:22. Il a tout mis sous ses pieds, Dieu le Père a tout mis sous ses pieds à Jésus, puis a donné à Jésus d'être le chef suprême de l'Église. Fait que, dans l'Église, que nous on a quand même, on est assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, puis on est assis dans son autorité, mais n'oublions pas qu'on a pour chef suprême Jésus. On remplace pas Jésus. Jésus est l'autorité de l'Église. Il est le chef suprême de l'Église. Puis c'est pour faire sa volonté qu'on est là. Il nous place dans une position d'autorité en Jésus, mais c'est pour faire sa volonté, non pas la nôtre. Puis là, l'Église doit apprendre aussi à se soumettre, parce que faut pas oublier qu'on est encore dans une nature qui a de la misère à se soumettre. Que de la misère à accepter l'autorité, que de la misère à accepter des ordres ou des commandements ou des enseignements de Jésus puis des apôtres pour nous soumettre à un mode de vie chrétien. Puis il faut apprendre à se soumettre parce que Jésus est le chef de tout ce qui est dans le monde invisible et de tout ce qui est dans le monde visible, y compris l'Église. Jésus a reçu, quand il est ressuscité, l'omniprésence de Dieu. Quand on dit ça dans Éphésiens 1:23, quand il dit dans verset 22, il dit il a tout mis sous ses pieds, puis il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Verset 23, qui est son corps, l'Église est le corps de Jésus. Jésus a reçu la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est l'omniprésence. Jésus a la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a la plénitude du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit rentre dans l'Église, rentre dans un individu pour le greffer à l'Église, ça veut dire que le gars, il est né de nouveau, il a reçu le Saint-Esprit, il est greffé à l'Église, mais tous les membres du corps de Christ sont dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la plénitude qui remplit tout en tous, mais Jésus a reçu la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus a la plénitude du Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit aussi. Fait que quand tu reçois Jésus comme ton sauveur, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois aussi Jésus, puis tu es dans la communion avec Jésus et le Saint-Esprit. Voyez-vous? C'est pour ça que quand Jésus est le chef suprême de l'Église, parce que tout est mis sous ses pieds, même l'Église, l'Église est son corps, puis Jésus a la plénitude de l'Esprit qui remplit son corps. Quand on parle de comment Jésus a été élevé par Dieu son Père, mais il a été élevé dans la présence de Dieu, il possède les attributs de Dieu. Celui qui remplit tout en tous, la toute-puissance, d'être là éternellement aussi, comme ça dit, qu'il est pour toujours, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Voyez-vous, Jésus, quand on disait, il est Dieu, mais on peut le prouver par la Bible, par les différents passages, dans ses attributs, il possède tous les attributs de Dieu. Amen. Si Dieu accomplit ça pour Jésus. Il accomplit cela comme c'était écrit comme promesse. Dieu le Père l'avait dit qu'il était pour le ressusciter, puis il l'a ressuscité pour lui donner une place comme sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il a donné la place, puis il règne comme que c'est écrit, puis il attend juste que ses derniers ennemis soient mis sous ses pieds. Alors, ça va venir la fin. Mais merci Seigneur pour ses promesses, grâce à ses promesses, mais ça nous donne l'assurance d'attendre aussi les nôtres, nos promesses. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie de nous révéler comment est-ce que Jésus était élevé et dans quelle position qu'il est maintenant. Je te demande, Seigneur, de nous garder, nous, dans cette foi, Seigneur, dans cette foi en ta parole, de fortifier nos cœurs, de fortifier notre esprit, afin qu'on ait les regards sur Jésus. C'était une promesse, Seigneur, puis qu'on garde la foi, qu'on garde le cap, qu'on se continue à se nourrir de ce que tu nous donnes dans ta parole, puis d'être puissamment ancré en tes paroles. Je te remercie de ce que tu vas faire dans nos vies. Je te rends la gloire et que te revient dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.